Oui, mais c'est indépendant.
On va commencer avec Rabotai, notre deuxième cours. On a commencé juste un peu à l'oral la semaine dernière sur le chapitre 19. Donc là, aujourd'hui, on va continuer Bezrat Hashem. Le thème dans le chapitre 19, ça vient à la suite du chapitre 18, qui est un nouveau thème dans le Tanya. On a parlé de l'amour caché que chacun de nous avait envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Ahava Mesuteret. Pourquoi on a précisé que chacun de nous avait un amour caché? Pour dire que chacun de nous doit savoir que quand on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Même si une personne sent qu'il est loin de la Torah et qu'il ne pratique pas du tout les mitzvot, c'est pas parce qu'il ne pratique pas que ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu, et ça veut dire qu'il n'a pas en lui une neshama qui est déjà attachée à Dieu et qui est inséparable d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était le thème du chapitre 18, dans lequel on a insisté, à Rabotai, on se concentre, dans lequel on a insisté que profondément, au fond de chaque juif, on est tous attachés à Akadosh Baruch Hu, sauf que le Yetzer Hara nous arnaque. Merci. Pourquoi il nous arnaque? Parce qu'en vérité, quand tu vas voir un juif qui est loin, tu lui dis, bon, bah, puisque de toutes les façons t'es loin, viens, on va se convertir. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, non, ça non. Pourquoi ça non? Que ça change?
Oui.
Alors il va expliquer que c'est un piège du Yetzer Hara. Que le Yetzer Hara nous fait croire que si on se convertit, on va quitter Dieu, alors que si on transgresse le Shabbat, on quitte pas Dieu. Alors qu'en vérité, ni dans l'un ni dans l'autre, on quitte Dieu. Donc c'est la même, on peut pas quitter Dieu, c'est impossible.
Oui,
mais, c'est un piège du Yetzara, que le Yetzara me fait croire que certaines avérotes sont plus graves que d'autres. Donc, et à cause de ça, je tombe dans le panneau. Je tombe dans le panneau, je dis ça je fais, telle avéra je fais, telle avéra je fais pas.
Mais il y a quand même des sanctions qui sont marquées.
Et bien sûr, il y a des sanctions, mais je parle
d'une hiérarchie.
Mais au niveau de l'interdiction, les deux sont interdits,
oui,
l'un comme l'autre.
Il n'y a pas un truc moins interdit que l'autre.
Voilà, donc il n'y a pas. Parce qu'il a expliqué comme ça, en fait, ce qu'on avait expliqué, ce qu'il avait dit que le. Bonsoir. Il avait dit que le. En fait, comment le Yetzara nous arnaque? Le Yetzara te fait croire comme ça. Il te dit, c'est pas grave si tu fais une petite avéra, tu resteras toujours juif. Alors que quand Dieu préserve, tu lui dis, rentre dans une église pour te convertir, il dit non, là je peux pas le faire parce que j'arrêterai d'être juif. Ce qui est faux, ce qui est archi faux. Mais c'est comme ça que le Yetzer Hara nous met dans la tête. Ça veut dire en d'autres termes, j'ai les sauvés pour l'instant.
Je peux pas donner.
Ça va, c'est bon, pour l'instant ça va. Ah, c'est calme, c'est éteint.
Il y a les militaires.
Donc. Pour l'instant, ça va, je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a expliqué, Bekitsou, pour résumer, on a expliqué qu'en vérité, on tombe tous dans le panneau du Yetzer Hara. Alors, certes, on a fait une caricature ici. Ça veut dire qu'on a pris un juif qui était très 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 bas, et que pour lui, son seuil qu'il ne faudra pas, c'est ne pas rentrer dans l'église pour se convertir. Mais en vérité, quelque part, on est tous un peu comme ça. C'est qu'on a tous un seuil qu'on se met. Il y a tous des avérotes qu'on fait, et des avérotes qu'on fera jamais. Pourquoi tu les fais jamais? Parce que je me dis, non, ça c'est trop grave. Donc, qui a décidé que c'est trop grave? Parce que je me dis, ça, si je fais ça, je serai plus un bon juif. Et donc, ça me dérange. Parce que j'ai pas envie de dire de pas que je suis pas un bon juif. Bon, si je m'utilise avéra par-ci, par-là, ça va. Je reste un bon juif. Mais ça, c'est un piège.
Je veux dire que c'est une limite qu'on s'impose.
Non, c'est une limite qui est fausse. C'est complètement fictive.
C'est les deux.
Mais c'est complètement fictif, parce que c'est faux. C'est une limite qui est fausse. Elle vaut rien. Mais c'est une limite dans laquelle on tombe dedans. C'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 18, mais ça, je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, on a commencé à l'oral, la semaine dernière, le chapitre 19. Et c'est un chapitre très intéressant. Et d'ailleurs, même ceux qui n'étaient pas là les cours précédents, deux, trois cours précédents, c'est pas grave, on peut suivre le chapitre 19, parce que c'est un nouveau thème. En fait, maintenant, on ne va pas parler de l'amour caché qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, on va parler de la Neshama. Si vous voulez, avant, on a parlé du résultat. Le résultat, c'est qu'au fond de moi, j'ai un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu.
C'est pas le résultat avec le bilan.
Maintenant, on va parler d'un moteur. Ouais. Quel moteur on a? On va parler du moteur qu'on a, qui s'appelle la Neshama. Alors, c'est très, très intéressant comme question. Ça veut dire, même d'ailleurs, la Gemara s'arrête très très peu sur cette question. Est-ce qu'on pourrait définir la Neshama? C'est quoi la Neshama? On avait donné une définition, dans quelques chapitres en arrière. On avait dit que le siège de la Neshama se trouve où? Vous vous rappelez? Dans le Moar, Razak. Le siège de la Neshama se trouve dans le cerveau. D'accord, mais concrètement, c'est quoi la Neshama? Concrètement. D'accord, on a commencé à l'oral, je rappelle. J'avais commencé juste deux, trois, quelques lignes. Oui, oui. Donc c'est quoi? C'est quoi un souffle de vie? La Neshama, c'est un souffle. Très bien. C'est quoi la Neshama? Parce que là, vous avez bien compris que non, mais c'est intéressant comme question. Regarde, Rabotai, pourquoi je m'arrête sur cette question? Parce que c'est une question très importante pour la suite du Tanya. Pourquoi? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, c'est quoi la Neshama? La Neshama, c'est un souffle de vie. C'est-à-dire que la Neshama, c'est ce qui fait la différence entre un vivant et un mort. Le fait qu'il a une Neshama, donc ouais. Il est vivant. Donc ça veut dire quoi? La Neshama, c'est un moteur qui fait que je vis. Comme un animal, il a une Neshama parce qu'il vit, il aurait pu être mort, un cadavre mort, mais il vit. Moi aussi, j'ai une Neshama qui est mon moteur qui me fait vivre. Seulement, le problème, c'est que quand on parle de Neshama, on sait que la Neshama, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement un souffle de vie. C'est aussi, la Neshama a une réflexion. Elle communique avec Dieu. Elle s'attache à Dieu. C'est elle qui me relance de temps en temps. Et ça, c'est pas un souffle de vie, ça. Un souffle de vie, c'est un souffle de vie. C'est ce qui fait que je respire. Donc, la Neshama a un rôle qui est beaucoup plus important que ça, à part le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est annexe. C'est que bon, elle fait en sorte que tu vis, que tu respires. C'est vrai, la Neshama fait en sorte qu'on me donne l'énergie que je respire. Mais il y a beaucoup plus que ça. La Neshama, elle a une volonté, elle a des volontés, elle a des envies, elle a envie d'avancer vers Akadosh Baruch Hu. Donc, on va essayer de définir maintenant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la Neshama. Et là, il va nous donner un exemple. Un exemple, en vérité, qui va être basé sur un pasouk de Shlomo Amelech. Alors, dans les mots. On va commencer quelques lignes dans les mots qu'on commente. Ou Tosefet Biur, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est cet amour caché. D'accord? Parce que c'est quoi notre problème? C'est qu'on a du mal à comprendre quel est cet amour caché qu'on a au fond de nous. Donc pour comprendre quel est cet amour caché, il faut comprendre quel est le moteur de cet amour caché. Le moteur de cet amour caché, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est quoi la Neshama? Tsarich Levaer Etev, il faut bien expliquer, Mashekatoub, ce qui est écrit, Ner Hashem Nishmat Adam. Shlomo Amelech, le roi Salomon, dans les proverbes, et on sait très bien que dans les proverbes, c'est très concentré, c'est-à-dire qu'un mot dans les proverbes, on peut le développer en long et en large. Là-bas, il dit, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est la Neshama d'un homme. Ça veut dire qu'il a comparé la Neshama à une bougie. Quel rapport entre la Neshama et une bougie? Oui, donc déjà, on a une autre image là. Jusqu'à présent, on parlait que la Neshama, c'était comme un souffle de vie. Là, on te dit, la Neshama, c'est une bougie. Quel rapport avec une bougie?
C'est une lumière.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une bougie?
Elle bouge pareil.
Une flamme. Non,
dites-moi, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous entendez le mot bougie? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Lumière.
Lumière, d'accord. Non, attendez, bougie, c'est pas une torche. C'est pas une torche, c'est pas le soleil, c'est une bougie.
C'est attiré vers le...
Une bougie.
Une flamme.
D'accord. Une flamme, d'accord. Je sais pas ce qui vous passe par la tête. Une flamme, de la lumière.
Non, la traduction de nerf, c'est quoi? C'est une flamme ou une bougie?
Je vous demande, vous, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand je vous dis le mot bougie?
C'est pas bougie.
Si, c'est bougie.
Nerf, c'est bougie.
Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Oui, bien sûr, nerf, c'est bougie.
C'est lumière.
Lumière. Du feu. Quoi encore? Tout ce qui n'est pas éternel, très bien, quelque chose qui se consume.
Qui va du bas vers le haut.
Est-ce qu'il y a encore qui va du bas vers le haut?
D'accord. Et qui
est
la
chaleur. La chaleur, d'accord.
C'est une énergie qui est lente.
Ok, donc, qu'est-ce qui revient un peu de tout ce que vous dites? La bougie, c'est le symbole de la lumière, la chaleur, du bas vers le haut, d'accord? Elle bouge tout le temps, d'accord? Ça, c'est une bougie.
C'est la vie.
Maintenant, on va essayer maintenant de rappliquer tout ça par rapport à la Neshama. Expliquer en quoi tout ça, c'est un machal par rapport à la Neshama. Parce qu'en fait, dans une bougie, pour ceux qui étaient la semaine dernière, connaissent le début, dans une bougie, il y a beaucoup plus que ça.
La semaine dernière, il y avait pas de cours.
Il y a deux semaines.
Bravo,
voilà. Faut pas dire n'importe quoi, hein.
J'avais
l'impression d'avoir raté quelque chose.
Ah, ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines, c'était un cours où il y avait pas beaucoup de monde, mais on avait quand même fait un petit,
Là, je suis 244.
On a recommencé le chapitre 19. Donc. Faut bien expliquer ce qui est écrit Ner Hashem Nishmat Adam, que la bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. D'abord, c'est écrit Nishmat Adam, la Neshama de Adam. C'est qui Adam? Qui est appelé Adam?
L'homme.
Est-ce qu'un goy est appelé Adam? Excusez-moi d'être explicite. Faux. Un goy n'est pas appelé Adam. La définition Adam a été donnée que pour Adam Arishon. Et la Gemara a dit clairement que la définition Adam dans la Torah, depuis la création du Ham Israël, c'est une définition qu'on retrouve que sur le juif. Adam. Donc déjà, ce qu'on apprend ici, c'est que Shlomo Ameler ici, le roi Salomon, quand il nous dit que la bougie de Dieu est la Neshama de Adam, de l'homme, il parle pas de la Neshama de tout le monde. Parce que même les goyim, ils ont une âme qui insuffle leur vie. Ils ont un corps qui vit. C'est pas de ça qu'on parle quand on parle de la Neshama. Quand on parle de la Neshama, on parle de ce qui me fait vivre, dans le sens de ce qui me donne ma vie spirituelle, ce qui fait que je suis juif. Et c'est ça ce qui va nous amener à la suite de ce chapitre dans lequel il expliquera qu'en vérité, au fond de nous, si on pouvait décomposer, on a en fait deux âmes, même trois. D'accord? On a l'âme animale, c'est celle qui pousse à avoir des pulsions tordues. On a l'âme vitale.
Neshama?
Non.
Qui nous fait vivre.
Qui nous fait vivre.
On respire.
qui fait que je respire, qui fait que je dors, que je bois, que je mange, comme un animal, d'accord, comme un goy, comme tout élément qui vit, qui a une neshama, d'accord. Et enfin, un juif, il a un bonus, c'est qu'il a une âme divine. Et cette âme divine, c'est autre chose. Et ça, c'est écrit Ner Hashem Nishmat Adam. Cette bougie de Dieu, c'est la neshama de Adam. C'est qui Adam? C'est les Juifs. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette neshama. C'est quoi cette neshama? Donc, on va devoir revenir à l'image de la bougie et décomposer une bougie. Mais on va aller jusqu'au bout. Hein. Mm. Ça veut dire qu'on va prendre la bougie, on va prendre le combustible, la mèche, la flamme, d'accord, la direction de la flamme. On va tout prendre.
La composition.
Parce que quand le roi Salomon il donne un exemple, vous savez. On dit que la force des exemples de Shlomo HaMelech et des gens qui savent donner des exemples, c'est quand un exemple correspond à la perfection. C'est pas juste qu'il correspond sur un détail. Un bon exemple, c'est un exemple qui correspond à la perfection. Ça veut dire que si on compare la bougie à la Neshama, ça veut dire que dans la Neshama, il y a toutes les caractéristiques d'une bougie.
Même le fait qu'elle se consume et qu'on
tout,
va finir alors.
Tout, bien sûr. Tout. On va tout retrouver. D'accord? On va développer. Alors, ça veut dire quoi se consumer?
C'est-à-dire qu'elle a une durée de vie.
Qu'est-ce qui se passe quand elle se consume?
Elle brûle.
Le feu, c'est une substance.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de substance, d'accord? Quand il n'y a plus de combustible. La lumière, elle s'éteint?
Il y a plus de lumière.
Elle va où, la lumière?
Elle monte.
Ah, on a
transformé. On va voir, on va développer.
Okay.
Alors, ou que c'est fait biour, tzech levaeret, machekatouv, ner Hashem nishmat Adam. C'est écrit, la bougie d'Hashem, c'est la neshama de l'homme. Pirouche, ça veut dire, ce qu'on vient d'expliquer. Chez Israël, akruim Adam, que Israël qui sont appelés Adam, exclusivement. D'accord? Il n'y a que Israël qui sont appelés Adam, les autres ont d'autres noms. Mais Adam, c'est nous. Atem kruim Adam, comme dit la Gemara, nishmatam, leur neshama, il, machal ke oraner. La bougie, d'accord, la neshama d'un juif est considérée et comparée comme la lumière de la bougie. La neshama d'un non-juif, elle est comparée comme ce qui est écrit dans Bereshit, c'est un souffle de vie. Ça, c'est la neshama de tout être. Même la neshama d'un animal, c'est un souffle de vie. Mais la neshama d'un juif, c'est autre chose. À part c'est ce qui lui procure son souffle de vie, c'est quelque chose qui lui assure la communication qu'il aura avec Dieu. Quel rapport avec la bougie? On va expliquer point par point. D'abord, premièrement, ce qu'il y a de particulier dans la bougie, c'est qu'on voit que la flamme, elle bouge constamment. Elle reste jamais en place. Et c'est pas lié au vent. Alors je sais que c'est une technique, hein, parce qu'on m'a appris ça. Vous savez, ceux qui veulent vérifier les climatisations, des trucs comme ça, pour voir s'il y a du vent qui vient, ou les aérations, etc. Ils viennent avec une bougie, et ils regardent. Ils regardent si la flamme, elle va dans un sens, dans un autre sens. C'est une technique, parce que des fois, c'est tellement fin qu'on peut pas sentir avec les mains. Mais avec une bougie, tout de suite, tu vois. Bon, ça change pas. Même si tu n'as pas de vent dans une pièce qui est parfaitement hermétique, une flamme bouge tout le temps. Légèrement, mais elle bouge tout le temps. Pourquoi elle bouge?
C'est une action de...
Quand je prends ce verre, d'accord, là il bouge parce que je le bouge, je le pose. Il bouge encore un petit peu là pendant quelques secondes, après il va s'arrêter.
Ça c'est une illusion, ça bouge pas.
Non, il bouge pas.
La terre elle bouge.
Évidemment, tout bouge, j'ai compris. Mais je parle concrètement, quand tu prends un microscope, tu regardes. Il bouge pas. Le feu bouge. Pourquoi il bouge le feu?
Parce qu'il y a la consommation.
Non, d'ailleurs, c'est la consommation.
Comment?
Là, il va expliquer. Regardez ce qu'il va expliquer ici.
En mouvement.
Donc il dit.
C'est pas stable, c'est pas statique, oui, l'énergie. Ça va, ouais.
Donc.
Il y a la consommation.
Pardon.
C'est pas grave.
Oui, ça bouge. Alors. Donc dans les mots, il dit comme ça, il dit, on va prendre un exemple, pour illustrer ce qu'on va dire dans la suite, on va donner un exemple. Imaginez que par exemple, vous avez une source d'eau, donc l'eau se trouve à sa source, qui est la source d'eau. Je prends un verre d'eau de cette source, d'accord? Est-ce que l'eau que j'ai dans mon verre, elle a envie de retourner à la source d'eau? Non, pas du tout, l'eau elle reste dans mon verre, et elle reste là, il n'y a pas de problème, elle ne bouge pas. En fait, ce qu'explique les Mekoubalim, mais ça vient du Rambam, le Maïmonide explique, il dit que pourquoi le feu il bouge tout le temps? Parce que le feu veut retourner à sa source. Où se trouve la source du feu? Ça c'est le Rambam qui dit. La source du feu se trouve en dessous du Galgal, ça veut dire en dessous de la sphère de la Lune. Comme ça il dit Rambam. Je sais pas ce que ça veut dire scientifiquement, mais en tout cas, il est attiré vers le haut. Pourquoi il est attiré vers le haut? Il est attiré vers la source. Le feu, c'est une des rares choses qu'on voit, que par son comportement, il te montre qu'il tient pas en place. Il veut retourner à sa source. Quitte même, à cause de ça, à devoir disparaître. Pourquoi? Parce que ce feu-là, quand il est ici, quand on le tient, cette flamme, ben il a une substance, il sert à quelque chose. Mais quand il va monter, il va s'évaporer, mais bon, il va monter, il va servir à quoi? Il va servir à rien du tout. Ça veut dire qu'il est tellement, tellement il veut retourner à sa source, qu'il est prêt même à complètement s'annuler et à se détruire, à s'arrêter, ne serait-ce que pour, parce qu'il veut retourner à sa source. Là, on a ici une première image de la Neshama. Il faut savoir qu'au fond de nous, on a une Neshama qui est retenue constamment par le corps. On verra après que le corps, il y a la mèche, il y a le combustible, et on verra tous les détails. Il faut savoir que la Neshama, si on lui demandait son avis à chaque seconde de notre vie, on lui dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Il dit « je veux partir ».
Ah, si elle veut partir, on est mort.
Je veux partir, j'ai rien à faire ici, moi. J'ai rien à faire ici, je veux partir, j'ai rien à faire. Je perds mon temps. La Neshama ne veut pas rester ici. Mais tu veux dire, mais attends, tu vas monter en haut, après si tu vas monter en haut, tu sers à rien en haut. T'as des malachim, etc., tu sers à rien. Ici, tu peux faire des mitzvot. Mais la Neshama, ça ne change pas. C'est comme la bougie. Ça ne la dérange pas. Elle dit, mais c'est pas grave. Tellement je veux m'approcher de ma source que ça ne me dérange pas, même si en haut, je disparais complètement. Je préfère ça. Au moins, je retourne à ma source. C'est exactement comme la bougie. La même chose. Il faut savoir qu'au fond de nous, chacun de nous, on a une Neshama qui est exactement comme ça. Seulement, il y a un corps qui la bride, qui la tire vers le bas. Alors, de temps en temps, la Neshama, elle envoie un coup pour te dire, hey, je vais décoller. Mais concrètement, le corps la bride, le corps la tire. Mais ça change pas que la Neshama, chaque instant, ça veut dire comme ça, en d'autres termes. Lorsqu'arrive le jour où la Neshama doit partir de ce monde, Dieu préserve, après 120 ans. D'accord? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, pourquoi?
Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin que, il n'y a pas besoin que, il n'y a pas besoin qu'il y ait une action de venir chercher la Neshama. Il suffit que le corps arrête de retenir la Neshama, et toute seule, elle s'en va.
Alors, on doit être super content qu'on sait qu'on va mourir,
Donc,
ça veut dire quoi?
Ah oui,
la mission sur Terre.
Puisque, oui, non, mais.
La Neshama est contente.
Si tu dis que,
la Neshama est contente.
La Neshama, elle est,
La Neshama est contente. La Neshama est contente, mais elle a quand même de la peine, parce qu'elle sait ce qui l'attend en haut. Mais elle est contente quand même, parce qu'elle veut retourner à sa source. Ah oui, elle sait qu'elle a fait d'Averot, elle sait qu'elle s'est salie.
Oui, mais gros, concrètement, elle est quand même in fine contente, puisque elle va à sa source vers son père, sa mère.
Eh ben exactement. Qui,
donc elle est contente.
Une Neshama, elle est heureuse quand
comme,
elle retourne
c'est
à
comme
sa source.
Un gamin, quand il est parti, il a été en colonie de vacances, et au bout de 3 semaines, il retrouve ses parents, il est super content, le gamin, et les parents, pareil.
Oui.
Donc la Neshama, c'est pareil.
Elle veut retourner
là-haut, elle est super contente.
Elle veut retourner, tout le temps, elle veut retourner à sa source. On dit même que, vous savez, il y a un texte qui dit comme ça, vous savez que tous les soirs quand on va dormir, la Neshama, elle retourne chez Kadosh Baruch Hu. Et il y a un texte comme ça du Zohar qui dit que chaque fois que Dieu dit qu'arrive l'heure où on doit se réveiller, d'accord? Alors, à ce moment-là, Dieu, il envoie la Neshama, il lui dit, il faut redescendre. Et la Neshama, elle pleure devant Kadosh Baruch Hu tous les jours.
Ah ouais, carrément?
Elle pleure devant Kadosh Baruch Hu. Elle lui dit, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas m'envoyer dans ce corps? C'est très bien qu'il va rien faire. C'est très bien, ça fait des années qu'il est là, il fait rien.
Carrément.
Et attendez, écoutez, c'est très important. Et qu'est-ce que dit le Zohar? Le Zohar, il dit que tous les matins, Dieu répond à la Neshama. Il lui dit, t'inquiète pas, peut-être aujourd'hui, il va faire tes choix. Tous les matins. Vous imaginez combien Dieu nous fait confiance? Tous les matins. Chaque fois qu'on dort, la Neshama, elle s'en va. Elle veut pas redescendre parce qu'elle dit, pourquoi je redescends? À quoi ça sert? Il va m'arnaquer encore, il va me dire, frère Teshuva, il va rien faire du tout. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, peut-être il va faire Teshuva. Vous imaginez la confiance que Dieu a en nous?
Oui, mais alors, d'un autre côté, si la Neshama, elle ne revient pas dans ce corps-là, chez le mien, chez le sien, c'est celui-là, etc., comment allons-nous exécuter les mitzvot que Hachem nous a demandé de faire?
C'est pour ça qu'on
donc
a donné l'exemple.
De nous la rendre.
C'est pour ça qu'on a donné l'exemple ici. On a donné l'exemple de la bougie.
Oui, donc il est obligé.
Que la bougie, la flamme, elle sait très bien.
Non, parce que dans la
tefila du matin. C'est moi arrivé au bout du raisonnement.
Nishmati.
Bien sûr, c'est Dieu qui rend les chemins.
Donc finalement, j'ai pas à le remercier.
Mais évidemment qu'il a remercié.
Non, parce que s'il me rend pas, il ne vous rend pas, celui-là. Alors comment on va accomplir les mitzvot? Donc c'est donnant. Hein.
Quand je prête quelque chose, quand je donne quelque chose, Monsieur Benita, quand je donne quelque chose en dépôt à garder à quelqu'un, et qu'il s'en occupe mal, et qu'il me le rend tous les soirs, et que ça fait déjà 15 ans que tous les matins il me le ramène, enfin tous les soirs il me le ramène, et tous les matins je lui rends et il l'utilise mal tous les jours. À un moment je lui dis, bon écoute, ça suffit.
Le contrat de location.
C'est fini le leasing. Hein,
c'est
voilà.
Que les Vélib.
Ouais. Pas mal.
Donc, je reprends. En fait, le machal qu'on veut montrer ici, c'est pourquoi la bougie, c'est un excellent machal.
Qui est grossier? C'est le corps
parce
ou
que,
c'est
non, c'est pas grossier, c'est que la Neshama, elle veut pas être ici. Elle a pas envie d'être là. Elle a pas le choix. C'est pas sa place.
Quand le gouffre, il est fait, c'est pas la mission.
Oui.
Que la Nefesh Bahamit, elle est trop forte, entre guillemets. Elle arrive à endormir la Nefesh Elokit.
Oui.
Et que finalement, au lieu de faire des mitzvot, c'est le contraire qui se passe. Voilà. C'est ça la question.
Ben, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que le corps était tellement puissant qu'il a bridé la Neshama. Mais ça ne change pas qu'au fond.
C'est plus une bride, là. Parce que là, il va à l'encontre du
je vais te donner un exemple. Imagine-toi, par exemple, tu as un ballon qui est gonflé à l'hélium. Naturellement, qu'est-ce qui se passe?
Il monte.
D'accord? On est d'accord? Il monte. On est d'accord. Maintenant, imagine-toi que j'exerce une pression dessus. Et je ne laisse pas monter. J'exerce cette pression-là pendant un jour. Eh ben, tant que j'exerce la pression, tu te dis, le ballon, il est statique. Il n'y a plus rien en lui. Mais dès que j'enlève ma main,
il remonte.
Ça veut dire qu'en vérité, tout le temps, il voulait monter. Seulement, il y avait une force plus puissante qui le bloquait. Mais c'est pas parce qu'il te montrait pas qu'il voulait monter parce que c'est trop puissant qu'il veut pas monter. Il suffit juste que le corps il bouge un petit peu et automatiquement il bouge parce que c'est comme ce ballon à l'hélium. Il voulait toujours monter, jamais il voulait s'arrêter.
Mais tout d'un coup, le corps, il la retient pas. Comment elle monte alors dans la journée?
Par exemple, quand il passe par une épreuve. Quand on passe par une épreuve, ça casse le corps. Parce que le corps, c'est l'ego. C'est le corps qui dit, moi, je maîtrise tout. Et quand on passe par une épreuve qui casse l'ego, alors automatiquement, le corps bride moins. Et automatiquement, la neshama, elle remonte un petit peu. C'est automatique. Il n'y a pas besoin d'allumer la neshama. Elle est déjà allumée. Elle est déjà gonflée. Elle se veut déjà monter. Il suffit juste de ne pas la brider.
Tu parles d'un état.
C'est un état. On ne peut pas changer. C'est impossible de changer ça. Alors, je voudrais juste aller au bout du raisonnement. C'est important de comprendre le machal avec la bougie. Pourquoi le machal avec la bougie, c'est un très bon machal? Parce que dans le machal avec la bougie, on voit que la flamme, même si moi je la vois attrapée ici, elle bouge tout le temps. Parce qu'elle veut tout le temps retourner à sa source. Il faut savoir qu'au fond de nous, on a une neshama. Et que même si cette neshama, elle est attachée en nous, au prochain déjà depuis déjà plusieurs années, il faut savoir que la neshama qui est en nous, elle bouge. Elle bouge, c'est-à-dire qu'elle envoie des signaux. Et elle lâche pas. Ça veut dire que même si elle est bloquée en bas, que concrètement elle est bloquée, ça l'empêche pas d'envoyer des signaux de dire je veux partir, exactement comme la bougie, qui sait très bien qu'elle est bloquée maintenant, avec le combustible, avec la mèche. Mais elle bouge quand même parce que c'est sa volonté, elle veut partir. J'ai presque envie de dire, c'est presque plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. D'ailleurs le Zohar il dit aussi, il dit c'est la raison pour laquelle, regardez, vous voyez quand je suis en train de parler, je suis en train de bouger là, vous avez remarqué? Pourquoi je bouge?
Ça donne du rythme quand tu parles.
Pourquoi je bouge? Pourquoi mon frère Zinishiva, tout le monde est en train de bouger?
Les nerfs.
Pas du tout. Je vous garantis que quand je suis devant mon ordinateur, devant un programme informatique, je bouge pas. Je fais pas comme ça. Pourquoi? C'est sérieux.
C'est qu'on parle pas en même sens.
Comme vous dites les nerfs, c'est en fait les nerfs, N-E-R, pas N-E-R-F.
Ah oui, les lumières.
Quand j'étudie, monsieur Benita, quand j'étudie d'autres choses, je bouge pas. Pourquoi? Alors le Baal Shem Tov, c'est écrit dans le Zohar, Bekitsur, c'est écrit très court, mais le Baal Shem Tov explique ça. Il dit parce qu'en vérité, au fond de nous, on a une neshama, comme on a expliqué. Et de la même manière que la flamme, elle bouge tout le temps parce qu'elle veut retourner à sa source, alors, de la même manière, au fond de moi, la neshama, elle veut retourner à sa source. Tu veux dire, dans ce cas-là, pourquoi je bouge pas tout le temps? Pourquoi le matin, quand je me lève, je bouge pas? Puisque ma neshama veut tout le temps retourner à sa source. La réponse est très simple. C'est qu'en général, le corps hybride tellement la neshama, que du coup, la neshama, elle parle plus. Mais quand tu commences à étudier la Torah, et que la neshama dit, ah tiens, pour une fois, il me laisse parler maintenant. Alors la neshama dit, tant qu'à faire, maintenant il bouge, parce qu'il veut partir. Mais il sait qu'il partira pas. Mais quand même, c'est plus fort que lui, la neshama. Quand on bouge, comme la neshama, elle se sent bien, parce qu'elle sent qu'elle est en train de retrouver un petit peu qu'est-ce qu'elle avait avant, alors, elle essaye de bouger pour dire, j'ai envie de décoller, j'ai envie d'avancer. Donc voilà, on a ici une première image, pourquoi la neshama d'un juif est comparée à une bougie. Parce que, en fait, c'est pas la bougie pour l'instant, c'est la flamme. Là, on a comparé à la flamme. D'accord? La flamme qui veut tout le temps monter, qui veut tout le temps quitter le combustible, la matière, pour aller au plus rapidement possible vers sa source, quitte même à quitter la matière à cause de ça, parce qu'elle va quitter la matière. Là, on n'a pas fini. Je vais développer encore d'autres points. Vous avez une question?
Oui, s'il te plaît. Donc, est-ce que la neshama d'un tzaddik a une nature ou un comportement différent de celle que tu...
Sur ça, non. Non, toutes les neshamas, c'est les mêmes. Après, la différence va être jusqu'à quel point le corps brille.
La perception.
Moi. Mais toutes les neshamot au monde sont comme ça.
La boisson.
La neshama d'un tzaddik, si tu veux, il est plus gonflé, donc automatiquement son corps il s'effrit un peu moins, donc il met plus de pression. Mais le principe est le même, tout le temps le même. C'est que la neshama veut décoller et le corps la bride. C'est le même combat.
Donc là, tu parles de la nature de la neshama.
Ça veut dire.
Quelle que soit la personne.
Exactement. Tout à l'heure, quelqu'un qui a dit, je crois que c'est M. Bergel, il a dit, le feu, ça va du bas vers le haut. C'est-à-dire que là, en vérité, on a ici l'image de la différence entre l'eau et le feu. D'accord, l'eau, ça va du haut vers le bas. Ça coule du haut vers le bas. Alors que le feu, ça va du bas vers le haut. Et donc, c'est un peu la différence qu'il y a entre la neshama et le corps. Le corps, il veut aller du haut vers le bas, c'est-à-dire me faire descendre le plus bas possible. Et la neshama, elle veut m'amener du bas vers le haut, elle veut monter chez Kadosh Baruch Hu. Et tu les mets les deux en même temps, comme ça. Donc ça, vraiment, ça, ça bloque, parce que un il va aller là, l'autre il va aller là. Donc forcément, il y a un plus fort que l'autre. Ou bien il y a un point mort. Ça casse. C'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a un combat constant qui s'arrêtera jamais. Malheureusement, en général, c'est le corps qui gagne. Parce que c'est comme ça. À part, à moins qu'on soit de Sadikim. Mais c'est important de comprendre ce qu'est le moteur qu'on a, qu'on a fondé.
C'est un combat, hein, tous les jours.
Hein? Bien sûr, c'est un combat. Jours, ouais. Mais encore une fois, c'est pas parce que je le vois pas ce combat qu'il n'est pas là. C'est ce qui est important de préciser. Comme le ballon, c'est pas parce que je le vois pas décoller que ça veut dire qu'il veut pas décoller. Très important à comprendre ça.
C'est un équilibre, en fait.
Parce qu'il y a des gens qui disent, puisque dans la pratique, dans la vie de tous les jours, je fais pas de mitzvot, d'accord, que j'ai pas spécialement l'envie d'en faire, ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai pas envie. On lui dit non. T'as envie au fond de toi. Mais seulement tu brides. Arrête de brider, tu vas voir que l'envie, elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est pas, il y a même pas besoin de la refaire.
Alors, est-ce que le corps...
Exactement, Nadav Aviou, c'est ça. Nadav Aviou, ils ont supprimé le corps, ils ont laissé le Hesh. Ils sont morts avec le Hesh. Ils ont laissé leur âme monter. Et c'est automatique. C'est-à-dire, si tu te bloques pas, tu dis pas, stop, je m'arrête, et ben tu pars.
Alors, est-ce que le corps, est-ce qu'il peut être considéré comme une espèce de barrage pour permettre à, en même temps au corps de fonctionner et à la neshama de le stimuler pour qu'il puisse faire tchouva.
Alors justement, là, j'ai pas encore parlé du corps. Maintenant, on va devoir parler de la mèche et du combustible. Et on va expliquer à quoi correspond le corps.
Parce que l'un va pas sans l'autre. Donc forcément, il y a une relation étroite et dépendante.
Mais vous voyez que dans une bougie, il y a trois éléments. Il y a la mèche, le combustible et la flamme. La flamme, on a compris, c'est l'énergie, c'est la neshama. Maintenant, c'est quoi le combustible ? Dans le système du corps, c'est quoi le combustible et c'est quoi la flamme ? On va expliquer, on va parler de tout ça. Quel est le rôle du corps ? Parce que le corps a été créé par un Kadosh Baruch Hu aussi.
Il a un rôle, ne serait-ce que pour se protéger, pour protéger l'âme, et se protéger lui aussi, et puis pouvoir faire agir oui. pour les mitzvot, parce que c'est le corps qui va agir.
Évidemment, Dieu il a créé le corps qui va déclencher
l'action, c'est la neshama qui va dire, maintenant il faut que tu bouges. Et après,
Dieu il a créé la neshama dans le corps. Il n'a pas créé la neshama tout seul, il n'a pas créé le corps tout seul, il a créé la neshama dans le corps. Donc il y a une jonction assez particulière, parce qu'on met, tu mets deux personnes dans la même pièce, qui sont complètement opposées, diamétralement opposées. Et tu lui dis, vas-y, allez, vous devez vous entendre maintenant.
Au boulot.
Ok, alors, Beyesod Ha'esh HaKlali, Shetachat Galgal HaYareach. Donc on a dit, pourquoi le feu veut partir vers le haut? Parce que la source du feu, comme dit Maïmonide, se trouve sous la lune. On dit que sous la lune, il y a l'origine du feu, en tout cas ce qui fait que le feu est attiré vers le haut, parce que c'est le contraire de la terre. La terre est attirée vers le bas, c'est le principe de l'attraction terrestre. Mmh. Alors que le feu est attiré vers le haut. Donc Maïmonide explique, il dit qu'en dessous de la lune, il y a une sorte d'aimant, de la même manière que l'attraction terrestre au milieu de la terre qui attire la terre, de la même manière, de l'autre côté, il y a une traction qui est pour le feu, et qui est inverse. D'accord? Ce qu'il dit ici. Même si à cause de ça la lumière c'est le feu c'est qu'à cause de ça il ne servira plus à rien. Tu dis mais pourquoi tu veux partir? Regardez comme c'est pour ça d'ailleurs Serge t'a bien dit tout à l'heure, t'as dit la flamme quand elle s'en va, d'accord, instinctivement qu'est-ce qu'on dit? On dit elle s'est éteinte. Oui. Ça veut dire qu'elle sert plus à rien. C'est vrai, après quand on réfléchit on dit non elle s'est pas éteinte, elle est partie vers le, mais concrètement c'est fini, elle sert plus à rien cette flamme. Donc t'as envie de lui parler, t'as envie de lui dire mais pourquoi tu veux partir? Tu sais, tu vas servir à rien. Au moins, tu sers à quelque chose ici.
On va vers Dieu.
Pourquoi tu veux partir?
On va vers Dieu.
Oui, mais à quoi tu serviras là-bas? Au moins, si t'es utile. Tu es clair. Tu vas aller en haut, tu sers à quoi? Tu vas être décomposé, tu sers à rien. Ah, pourquoi tu veux revenir à ta source?
L'âme anime, en fait.
Non. C'est pas de ça que je parle. Ça, l'âme qui anime, ça, c'est l'âme vitale. Ça, là, on parle d'autre chose, là.
C'est pas évident
qu'elle là, c'est l'âme divine. Autre chose.
Dan, c'est pas évident qu'elle anime bien, d'ailleurs. Il y a l'âme. Il y a l'âme.
Pourquoi on l'appelle l'âme divine? Pourquoi on l'appelle l'âme divine? Pourquoi? Est-ce que l'âme animale, elle est pas divine? Est-ce qu'elle vient pas de Dieu?
Non, mais
tout vient de Dieu.
On la distingue par rapport au fait.
Quand on dit l'âme divine, parce que l'âme divine, c'est la neshama qui a pour but principal de créer un vecteur et un canal de communication entre le juif et Dieu. Et constamment, elle est là pour lui rappeler. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme, je sais pas comment on pourrait donner un exemple. C'est comme par exemple, tu as.
C'est une âme spéciale.
On va imaginer comme ça. Je vous donne un exemple d'informatique, hein, après vous comprendrez ce que vous comprendrez. C'est comme vous avez un ordinateur, d'accord? Vous avez plein de programmes installés à l'intérieur. Il y a des programmes qui veulent communiquer avec l'extérieur. Alors on met un firewall. Firewall, c'est un pare-feu qui dit attention, qui bride. C'est-à-dire que l'on dit au programme attention, tu passes par ce port, pas par ce port. Mais il veut quand même passer. D'accord? Donc le rôle de la neshama, c'est d'essayer constamment de passer le firewall. Dès qu'elle voit une femme, elle passe. D'accord? Et c'est son rôle, elle est là pour ça. Sa fonction, c'est de dire, il y a un Dieu qui est là-bas, moi je ping pour aller communiquer avec celui qui est là-bas. Ça s'appelle ping dans l'informatique. Ouais. Et c'est son rôle. Maintenant, même si elle sait qu'à chaque fois elle envoie un ping qui lui revient, Alors, hein, c'est-à-dire que elle envoie et ça revient. C'est pas grave. C'est son rôle. Son rôle, c'est d'assurer une communication avec Dieu. Et il essaiera tant qu'il faut jusqu'à la mort. Il n'y a pas de problème avec ça.
Mais
ça, c'est son rôle.
De passer.
Le pare-feu, c'est le corps. Il dit non, calme-toi, etc. Mais c'est pas grave. La Neshama, c'est pas parce qu'elle réussit pas qu'elle continue pas. Elle continue. Elle continue chaque fois. Elle s'arrête jamais.
Elle retourne à la source.
Elle essaye de retourner à sa source. C'est ça, c'est sa fonction. La fonction de l'âme divine d'un juif, c'est d'essayer par tous les moyens possibles de rappeler un juif qui il est et qui doit communiquer avec Dieu. D'essayer de lui dire, il y a un Dieu là-bas, c'est tout. Si, dès que le juif dit, je me suis rappelé qu'il y a un Dieu, pour la Neshama, c'est fini, elle a gagné, elle a fait sa journée.
Il y a un accident.
Bon, Dieu préserve.
Voilà, Dieu préserve. Tu perds un bras, il y a l'ouverture. Tu peux sauver ?
Non, justement. La Neshama, elle tient dans un réveil de sang. Elle tient dans 8,6 centilitres de sang.
Dans un verre de vin.
C'est fini.
Ouais,
donc dans les mots, qu'est-ce qu'on dit ici maintenant? Oui. Donc il dit, des irbe veloyer kloulemata. Vous avez dans les mots?
Alors Marcel, où on est dans les mots?
245,
non? Ou c'est page 48 dans le petit.
C'est lui qui les a faites. C'est
Eric
qui les a
fait. Ah oui, Khazaka. Et j'ai oublié pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, Mazal Tov à Monsieur Bergel et Monsieur Benita.
Pourquoi?
Ah oui, pardon. J'ai eu dans l'ordre alphabétique. Hein.
Ils ont pris un an chacun.
Merci.
Voilà. Ils ont grandi chacun d'un an.
Dans l'ordre celui de d'abord, c'est N après R.
Ah oui, c'est vrai.
Ça dépend.
Ouais.
Le A. Ah,
Berger. Non, Berger.
Berger.
Donc, dans les mots.
Benita,
là, je suis à la page, pour ceux qui ont le livre en français, je suis au dernier paragraphe de la page 245. Bien que la flamme sait qu'à cause de ça, sa lumière va s'éteindre et qu'elle pourrait plus éclairer en bas. Vegam, le malabé chorcho, et même en haut, quand elle reviendra à sa source, it batel orob mitziout be chorcho. Ça veut dire que si elle va partir, la flamme, d'abord en bas il n'y aura plus de lumière, et même en haut il n'y aura plus de lumière, parce que de toute façon on n'a pas besoin d'elle. Ça ne sert à rien.
Pardon, Mendy, quand tu dis on n'a pas besoin d'elle, et quand on dit que quelqu'un, quand son âme le suicide, et on s'adresse à cette âme-là.
Oui,
cette
la Neshama qu'on a chacun de nous, quand on arrive en haut, on n'a plus de fonction.
Non, plus de fonction, mais elle est là-haut.
Elle est là-haut, mais on n'a plus de mission.
Mais elle existe.
Bien sûr qu'elle existe, c'est sûr qu'elle existe.
C'est la retraite.
Elle est la chaise longue, etc.
C'est la
chaise longue. C'est écrit que les tzadikim, ils sont en haut, yoshvim, ils sont assis, vénénim, mais ils profitent du rayon de la shrina. Tu vois, il y a des gens qui sont allongés devant la plage. Là, c'est dans le mal, d'accord? Et ben, dans le bien, t'as des gens, les tzadikim sont allongés comme ça, ils contemplent la grandeur de la Hachem. C'est pas un plein kiff.
Ils ne sont pas sur un autre corps?
Non, ça dépend, c'est nécessaire. Si la mission n'était pas terminée, des choses comme ça, mais si on n'a pas besoin. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit dans les mots. Alors, je tourne la page. Afalpiken, quand même. Bekar ou Rafet Betivo. Voilà où je voulais en arriver. Il dit, Betivo. Betivo, c'est quoi Teva en hébreu? Teva, c'est la nature. Ça veut dire, même si cette flamme, elle sait qu'elle va partir et qu'il restera rien du tout et qu'elle servira plus à rien, elle ne peut même pas contrôler ça. C'est une nature que la flamme veut quitter et tu peux rien y faire. Alors il dit pareil, kach nishmat adam. Pareil la neshama de l'homme. Vechen pareil, prinat ruach vanefesh. Je rentre pas dans les détails, mais il faut savoir que dans la neshama qu'on en nous, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grades dans la neshama qui est en nous. Et il dit chashka chavtsa vachashka betiva, la neshama désire et veut dans sa nature l'ipared velatset minaguf velidavek becharsha umkora bashem chayeh chayim baruch. J'excelle là parce que j'expliquais à l'oral. La neshama, par nature, veut constamment se séparer du corps, quitter le corps, retourner à sa source, à son origine, revenir vers Hachem, qui est la vie de la vie. La neshama, elle est consciente que la vie qu'elle a en bas ici, c'est pas ça la vraie vie. Pourquoi quand on rentre dans un cimetière, on dit Bet Achaïm, la maison des vivants?
Oui, ouais, ça m'a toujours
pas la maison des vivants. Parce qu'on n'a pas envie de dire les morts.
Bah, pourtant, ils sont morts. Hein.
D'accord, ils sont morts. Pourquoi tu dis, et pourquoi, chaque fois, on parle les vivants? Après. Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch, quand on est chez Akadosh Baruch, c'est Chaye Achaïm. C'est la vraie vie, c'est la vie de la vie. Et la Neshama, elle est consciente de ça. Elle est consciente qu'elle vit ici dans Alma de Shikra, dans le monde du mensonge. Et que ici, ce qu'on dit être la vie, c'est éphémère. Et que la vraie vie n'est pas ici. Et la Neshama, elle est consciente de ça. Donc elle veut partir. Elle veut quitter ce corps, elle en a marre. Elle veut partir, même si elle sait qu'elle ne servira plus à rien. Elle veut retrouver la vraie vie. Hagam shetiye ayin ve'efes. Bien qu'elle sait que quand elle sera en haut chez Akadosh Baruch Hu, elle ne vaudra plus rien. Elle n'aura plus de fonction, plus de mission. Vetit batel sham imtziut legamrei. Et qu'elle n'aura plus aucune existence.
Mais elle ne servira plus à rien. Plus de vie.
Alors, d'accord.
Alors, elle aussi, elle aurait pu
vivre. Bien sûr qu'elle aura une vie. Elle sera chez la vraie vie, qui est à Kadosh Baruch Hu. Ouais, ça, c'est la vraie vie.
Parce qu'elle sert à rien, elle est nulle part.
C'est ça, parce que nous, dans la vie, c'est ça le problème. C'est que nous, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est éphémère, on croit que la raison de la vie, c'est parce qu'on sert à quelque chose. Donc, le jour où je pense que je ne sers à plus à rien, Chas Veshalom, qu'est-ce qui vient le monsieur qui pense qu'il ne sert à plus à rien? Il saute par la fenêtre. Parce qu'il ne sert à plus à rien.
Alors, justement.
C'est ça l'erreur. Mais c'est ça l'erreur. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas je sers pas. La vie, c'est Dieu qui décide.
Non, mais par rapport à ce que tu as dit ici, quelqu'un qui va se suicider, Dieu préserve. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, l'énergie qu'avait cette âme divine qui voulait sortir pour aller...
Non, ça n'a rien à voir.
Rapidement,
ça n'a pas de l'âme divine, un suicide.
Alors, c'est quoi, alors?
C'est une maladie.
Oui, mais c'est-à-dire que le corps n'arrivait plus à la contrôler. Elle est partie. Non. Elle voulait partir.
Non. Quand il a sauté, d'accord,
le corps, Dieu préserve.
Quand il a sauté, son corps est parti. Et quand son corps est parti, elle est chamelle monte automatiquement.
Oui, mais est-ce que c'est pas Hachama qui l'a poussé à partir?
Pas du tout.
Jamais.
Bah, je sais pas.
Suicide. Non.
Peut-être une question bête, j'en sais rien, mais.
Non, suicide, c'est une maladie. C'est une maladie.
C'est quelle partie du mort qui décide d'un suicide?
C'est pas le but du cours d'aujourd'hui, mais. Pour moi, c'est une folie. Enfin bon, c'est très très rare les cas de vrais suicides. Les cas de vrais suicides qu'on parle dans la Torah, ça veut dire un suicide prémédité, etc., c'est très très rare. La majorité des cas, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont malades dans le corps et des gens qui sont malades dans la tête. C'est une maladie.
Mais souvent, un suicide, c'est un appel au secours.
Oui,
c'est un appel au secours.
D'ailleurs, ça s'appelle une tentative de suicide.
Exactement.
Mais celui qui réussit un suicide, il n'a pas fait passer.
Très souvent, c'est une tentative qui a échoué, malheureusement. Bon, on va revenir au sujet.
Si le corps est parfait, la Neshama aussi, elle peut partir.
Si le
corps est parfait.
C'est le corps parfait. Par définition, le fait qu'il y ait un corps, ça bride.
Comment on explique le fait que la Hamavet n'avait pas d'emprise sur certaines saletés?
Ah, d'accord, c'est parce qu'il y a des corps qui sont tellement parfaits que le Malach Hamavet ne peut pas toucher ce corps. Tant que le corps est là, il bloque la Neshama. Dès que le corps s'en va, la Neshama repart.
On dit
qu'elle
est en bas. Vous voulez rester?
Je vais donner un exemple. Qui ramène dans le Tania. D'ailleurs, dans Shaykh Houdemoun, il donne un exemple. Il dit, c'est comme une vitre. Prends une vitre. Transparente. D'accord? Tu la salis. On voit plus rien. Tu la nettoies. Et toujours une vitre. Mais c'est propre. Tu vois ce qu'il y a de l'autre côté. Le sadique, c'est ça. Son corps, c'est comme une vitre propre. Donc il voit ce qu'il y a derrière. Mais il est bloqué quand même, comme tout le monde. Mais il voit ce qu'il y a derrière. Donc c'est autre chose.
Ça reste pas le top.
Mais évidemment que c'est pas le top.
Pourquoi Triad Amétim, on revient dans les corps?
Parce que quand il y a Triad Amétim, c'est un autre thème. Voilà, c'est quand il y a Triad Amétim, Akadosh Baruch Hu va nous montrer comment le corps va nous permettre de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est autre chose. Le corps de Mashiach, c'est un autre niveau.
Le tzadik ne sait pas faire ça.
Mais on n'est pas comme ça aujourd'hui. Mashiach n'est pas là. Bien sûr. Même un tzadik, son corps le bride. Même un tzadik, par exemple, il a envie d'étudier, il est fatigué.
Il n'a pas de force.
Ça veut dire que sa neshama veut étudier, son corps ne suit pas. C'est un classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps le bride. Maintenant, bien sûr que le tzadik, il va pas dormir 10 heures par nuit, il va dormir 2 heures par nuit. Donc son corps l'a bridé peu, mais il a bridé.
Non, mais on va te dire que même le tzadik, quand il dort les shem shamaïm.
Oui, mais c'est pas la question shem shamaïm. Bien sûr, c'est shem shamaïm.
Donc c'est pas dormir.
Mais ça cherche pas qu'il est bridé. C'est pas du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas possible.
On peut pas.
Il est bridé.
Quand tu veux.
En haut, il est pas bridé.
Il faut que tu dormes un peu quand même.
Et on est dans le 13e.
Ok.
Ouais, alors, la
Neshama,
elle est toujours supérieure au corps.
Ici
Bah, dans tous les cas de figure.
Non, dans la création. Tu continues, Arsène, je vais te prendre une photo.
Bah, rien c'est le contraire plutôt.
Je vais te prendre une
photo.
Je vais poster
pas la merde.
La Neshama. Oui, mais dans la pratique, la Neshama n'est pas supérieure au corps.
C'est la question, je sais pas.
Dans la pratique, celui qui régit ma vie tous les jours, c'est pas la Neshama, c'est mon corps.
Dans l'action.
C'est la réalité.
Donc le but quand même la création, c'est aussi le corps, c'est pas d'être...
Le but de la création, c'est de créer un corps, voilà. Mais de créer en même temps une neshama, et un combat constant. Un, il veut monter, l'autre, il veut descendre.
Comme disait avant, l'association. Hein? La résurrection des morts, tout ça, c'est bien pour avoir aussi une vie avec...
C'est comme une boîte à vitesse. Je vous avais donné une fois l'exemple, ça fait quelques mois, je vous ai donné une fois l'exemple. Boîte à vitesse. Quand tu prends, quand tu es dans une pente, donc la voiture, naturellement, elle descend. Elle est en train de descendre, elle avance bien.
Elle peut plus.
Et tout d'un coup, tu passes la marche arrière. Qu'est-ce qui se passe avec la boîte à vitesse? Tu la casses, tu la tues. Mais qu'est-ce qui se passe avec la voiture?
Elle s'arrête.
Elle reste bloquée. Tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est la même chose. Ça veut dire, l'aneshama, elle veut monter. Le corps, il veut descendre. Donc, à un moment, il y a des blocages. C'est-à-dire, à un moment, c'est bloqué parce que il veut là, tu veux aller là. Donc, ta force contre force est égale à zéro. C'est ce qui se passe. Et ça, c'est le combat qui est entre le juif et l'aneshama et le corps. Bon, je refais la parenthèse, dans les mots.
Pardon, même juste une petite question. Quand tu parles de que la Neshama a cette nature de vouloir remonter, etc. Est-ce qu'on distingue les choses entre quand la Neshama quitte d'une mort naturelle versus une mort provoquée ou
non, ça ne change pas, non. Tant que le corps est là, tu as un support qui bloque la Neshama. Une fois que le corps ne vit plus, d'accord, dans ce cas-là, la Neshama s'en va.
Quand c'est ça, les fonctions vitales sont touchées.
Ça s'en va. Il faut les fonctions vitales pour capter la Neshama. Dès que les fonctions vitales s'en vont, la Neshama s'en va.
Et le sang.
C'est fini. C'est elle est retenue par le corps. Dès que le corps n'est plus là, dès que le corps ne vit plus, la Neshama s'en va.
Et elle ne peut pas rester ?
Non. Il y a une petite partie de la Neshama qui reste, infime. C'est pour ça qu'on va dans les tombes de Tzadikim d'ailleurs. Et pas que de Tzadikim. Après, on va dans les tombes parce que le Zohar, il dit qu'il y a une partie infime de la Neshama qui reste tout le temps attachée au corps, ad vitam aeternam.
Ah bon ?
Oui, tout le temps.
À tous ?
Toute petite.
À tous ?
Tout le monde. Le c'est pour ça qu'on va pèleriner. Prends, on va sur les tombes d'un proche.
Mais le corps,
il reste en os. Voilà.
Qu'on appelle.
Il suffit même d'un millimètre. Il suffit d'un millimètre. C'est comme l'ADN. Avec un millimètre, tu peux te recomposer.
Absolument.
T'as un millimètre qui est attaché à la Neshama. Alors, Afal Piken quand même. Ze Retsona Vechevtsa Betiva. D'accord. Donc ça veut dire quoi?
La Neshama, elle, ce qu'elle cherche, c'est être proche de Dieu, c'est-à-dire faire exactement ce que Dieu veut.
Non.
C'est quoi, là?
Elle veut revenir chez Dieu, c'est tout.
Donc, mais pourquoi?
Elle est attirée à sa source.
Mais elle veut revenir.
Non, il n'y a pas de question.
Alors, donc là, c'est une très bonne question. Là, ça nous amène à une question. Parce que, à deux reprises, vous suivez, Rabotaille, on est un peu dans la théologie aujourd'hui, mais c'est important. À deux reprises, il a mentionné ici la notion de Teva. Teva, pas pharmaceutique, hein. Teva.
C'est
une nature. Deux fois, il a dit ça. Il a dit, c'est une nature. Il a dit, le feu, c'est une nature qui veut monter. La Neshama, c'est une nature qui veut monter. Ça veut dire quoi le mot de nature? C'est quoi ce mot de nature? C'est quoi une nature d'abord? Quand on dit nature, c'est quoi le mot de nature? Ça veut dire quoi une nature? La Neshama, une nature, ça veut dire comment on peut définir une nature? Il va expliquer. Et ça rejoint ta question. Parce que ta question, tu dis, finalement, qu'est-ce que veut la Neshama? Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit, c'est comme un aimant, c'est-à-dire qu'elle veut partir. Mais c'est-à-dire quoi, c'est une nature? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle a en elle? C'est quoi? C'est, comment on peut définir une nature? Alors, regardez comment il va définir ici. Metteva. Metteva. Alors, ici. Donc, on est à la page 247. Premier paragraphe. Teva. Quand on dit que c'est une nature. Zehu Shem Amushal. C'est un nom d'emprunt. Le Chol Davarch Eno Vibrinat Ta'am Vedat. C'est un nom d'emprunt qu'on attribue à toute chose qui ne peut pas s'expliquer. Ça veut dire comme ça. Quand une chose peut s'expliquer, on l'explique. Quand une chose ne peut pas s'expliquer parce que ça nous dépasse, on dit, bah, c'est la nature. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est plus fort que toi. Donc, il dit, ne crois pas, hein, que quand on dit ici, par exemple, quand on est en train de dire ici, par exemple, que la Neshama, elle a une nature de vouloir remonter, ça veut dire que dans la Neshama, il y a le côté naturel. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire ici. Le mot nature, c'est un mot qui est employé dans la Torah, chaque fois qu'on a quelque chose qui est inexplicable et qui est inné et automatique sans que tu puisses rien y faire. Chaque fois que dans la Torah on veut te parler de quelque chose qui est ancré en toi mais que tu peux rien y faire et que c'est en toi, d'accord, c'est plus fort que toi, on appelle ça une nature. On appelle ça un teva. Pourquoi? Parce que en vérité c'est comme la nature. Est-ce que la nature qui tourne autour de nous, est-ce qu'elle peut décider de pas tourner? Est-ce que maintenant, demain matin, le soleil peut décider de pas tourner? Il peut pas. Il est programmé pour tourner, il doit tourner. Ça veut dire que la nature exprime toutes les choses qui sont programmées et qui ne peuvent pas changer et qui ne changeront jamais. C'est pour ça qu'on appelle les choses naturelles. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici. Il dit que le terme Teva en hébreu, d'ailleurs, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ça. Teva en hébreu, on va bientôt arriver à la Parasha Beshalach. Parasha la semaine prochaine. Et dans la Parasha Beshalach, on dit que les Égyptiens, Touberu Beyamsouf. Les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge. Teva en hébreu, ça veut dire la nature, mais ça veut dire aussi noyé. Ça veut dire que c'est quoi la nature? La nature, c'est la nature, ça veut dire c'est quelque chose, c'est quand Akadosh Baruch Hu est noyé, quand Akadosh Baruch Hu est caché. On le voit pas. Premièrement. Deuxièmement, Teva, c'est la même racine aussi que Matbea. Matbea en hébreu, ça veut dire quoi? C'est quoi Matbea? C'est une pièce. C'est comme Matbea. Matbea, c'est-à-dire c'est un ordre. Je vous donne un exemple. Vous savez, à l'époque, comment ça se passait les pièces à l'époque? Il y avait des rois qui faisaient des pièces et on décrétait que telle pièce vaut tant. Selon le roi, selon l'effigie du roi qui avait dessus, on décrétait que telle pièce vaut tant. La pièce représentait la structure d'un pays, la valeur, d'accord, l'ordre. C'est pour ça qu'on dit par exemple que dans les berachot que les chachamim ont fait, toutes les berachot que les chachamim ont instaurées, on dit qu'on n'a pas le droit de changer de matbea chez tav ou chachamim. On n'a pas le droit de changer de la pièce, de la forme que les chachamim ont fait. parce que matbea, si vous voulez, à l'époque, comment ça se passait? Il y avait une forme en fer, d'accord? D'où vient le mot matbea? D'où vient le mot matbea? Non, mais attendez, d'où vient le mot matbea? Il y avait une forme en fer, on mettait sur du métal qu'on faisait chauffer, et on tamponnait. Ça, ça s'appelle, d'accord, les adbia, ancrés. Donc frapper, ça veut dire figer, figer la chose. Donc c'est quoi la nature? C'est ça la nature. La nature, c'est quand Dieu, c'est Dieu, mais Dieu se cache. C'est-à-dire qu'on ne s'explique pas. Donc nous, on ne peut pas l'expliquer, mais ça vient d'Akadosh Baruch Hu. La nature, ça veut dire aussi un seder, un ordre, quelque chose qui tourne, même si on ne le comprend pas forcément. Maintenant, toute chose qu'on ne peut pas comprendre et qui tourne, mais qu'on ne peut pas comprendre, on lui donne le mot teva. Ça ne veut pas dire que la neshama est naturelle, parce que la nature, pour nous, c'est quelque chose qui est physique. Ça veut dire que la neshama, cette volonté de la neshama de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est une chose que personne ne peut maîtriser, et personne, même si un juif, il va venir et va crier sous tous les toits, il va dire, je suis plus juif, je suis plus intéressé, j'ai plus envie de parler à Dieu, il peut rien faire. Il peut crier jusqu'à demain matin, ça ne changera rien du tout. Sa neshama veut tout le temps décoller. Maintenant, ce qu'il peut faire, il peut exercer une pression inverse pour que la neshama ne puisse pas s'exprimer. Ça, tu peux le faire, je peux mettre ma main devant la bouche, mais moi je suis en train de parler encore. Et pas de problème, tu peux mettre la main devant la bouche et tu diras que je parle plus, mais moi je suis en train de parler encore. Tu ne pourras pas m'éteindre. Ça, c'est la neshama, et c'est pour ça qu'on parle ici de teva, on parle ici de nature.
Alors la Brit Mila, c'est pareil. C'est un signe physique.
La Brit Mila, c'est écrit que tant que c'est la Brit Mila, la Brit Mila, c'est le contraire. En fait, on dit que quand Dieu nous crée, la neshama, elle est autour du corps. Elle peut pas rentrer dans le corps parce que le corps est trop grossier. C'est pour ça que quand on fait la Brit Mila, on dit que c'est là le moment que la Knissat Nefesh Akdusha. C'est là que la Neshama peut rentrer dans le corps. Dans le sens que, au moins, elle peut habiter dedans. Si on fait pas la Brit Mila, la Neshama peut que être autour du corps. C'est pour ça que c'est très important, même une personne qui est très âgée, de faire la Brit Mila. Parce que tant que tu fais pas la Brit Mila, sa Neshama ne peut pas rentrer dans son corps.
Même après la mort.
Il y a des cas comme ça aussi, oui.
Ah ouais,
Quelqu'un j'entre pas dans les détails, oui.
Quelqu'un qui est niftar et qui a pas eu la Brit.
Parce que c'est très important.
De le mettre en terre, on lui...
Tant qu'il n'y a pas la Brit Mila, la Neshama ne peut pas rentrer dans le corps. Grâce à la Brit Mila, la Neshama rentre dans le corps. Mais elle est bridée dans le corps. Mais au moins, il y a un corps qui peut l'accueillir. C'est déjà pas mal.
Oui, mais après la mort...
Non, il reste une partie de la Neshama.
Mais ça reste important,
apparemment. Ça reste important, oui. Non, c'est sérieux. Vegam Kan, ici aussi... Akavana shiratzon ze ben nefesh eino mibrinat ta'am vedat vesechel musag umuvan ela lemala me'adat vesechel musag umuvan. Donc là aussi, quand on dit que c'est la nature de la neshama de vouloir monter chez Akadosh Baruch Hu, pourquoi on emploie le terme nature? Pas parce que c'est naturel, parce que c'est quelque chose qui est rabotai
inexplicable.
Et tout ce qui est inexplicable, on dit que c'est naturel. On dit que c'est naturel. Alors, je ne sais pas quel mot...
Alors, donc, la vache rousse, c'est quelque chose de naturel.
Je ne sais pas quel mot on pourrait donner en français. Quel mot on pourrait donner en français pour dire les choses qui sont... Rabotaille. Elle rabotaille, on se réveille. Je ne sais pas quel mot on pourrait donner en français pour exprimer quelque chose qui est plus fort que nous, qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on ne peut pas expliquer.
Irrationnel.
Irrationnel ?
Non. Intrinsèque. Ça veut dire que ça fait partie...
Non,
s'il te plaît.
Intrinsèque, ça marche pas parce que tu peux c'est expliquer.
Bon. En tout cas, nous ici, on appelle ça teva.
Tu expliques, tu en veux. Ça fait partie, mais tu peux expliquer. Intrinsèquement, tu peux expliquer.
Merci.
Ok.
Il y a une base à l'expliquer.
Maintenant, dans le nefesh, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Parce qu'après, on passe à un autre registre.
Hein?
C'est quel? Il y a des questions jusqu'ici?
Non, c'est bien.
D'accord.
Bah, t'arrêtes pas. Merci tu le fais tellement bien.
On ne dit pas que Dieu fait
s'il te plaît.
Non, Dieu est noyé dans le teva.
Toda Ramba.
Toda Hasban, on dit.
Il est noyé.
Toda Hasban.
C'est-à-dire que tu ne vois pas. C'est comme la mer. Quand je vois la mer, qu'est-ce que je vois quand je vois la mer? Bah, je vois une masse d'eau. Mais en vérité, je ne sais pas que ça cache toute une vie qu'il y a dans la mer. Ceux qui font de la plongée sous-marine, ils te racontent que c'est une vie.
Oh, oui, c'est
mais ça, quand tu vois la mer, tu ne vois pas, toi. Toi, tu vois la mer.
Ah, oui, d'accord.
C'est la même chose. La nature, c'est. À l'extérieur, tu vois une masse d'eau, tu dis bon, ben ça tourne. D'accord? Et quand tu rentres au fond, ben là, tu vois qu'il y a des rouages, il y a de la nature, etc. Ça, c'est le teva. Mais encore une fois, la neshama n'est pas liée à la nature. Si on dit que la neshama a une nature de vouloir monter chez Hachem, le terme nature qu'on emploie, c'est uniquement pour exprimer les choses qui sont inexplicables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer pourquoi un juif veut communiquer avec Dieu. C'est inexplicable. C'est quelque chose qui est plus fort, quelque chose qui est plus fort que nous. Maintenant. De quel niveau ça vient, hein? Ça vient de soi dans la Neshama. D'accord? Dans la Neshama, il y a plusieurs niveaux. Dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'ailleurs, c'est pour ça que vous remarquerez, qui fait le Chazan, qui allume les bougies, pour le, il est dans l'année de son père, il allume 5 bougies. Pourquoi 5 ? 5 bougies, pas parce qu'il est tunisien, il n'est pas tunisien. Alors, pourquoi 5 bougies ? Parce que 5 bougies, c'est écrit que ça correspond pour quand il fait la tefila. Il fait la tefila, il aime toujours devant lui 5 bougies. Tout le temps, c'est soudré. Pourquoi 5 bougies ? Mais c'est un minak. Pourquoi 5 bougies ? Parce que 5, ça correspond aux 5 niveaux de la neshama.
Alors, redis-les moins vite que je l'ai.
Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yerida. 5 niveaux qu'il y a dans la neshama.
J'ai jamais vu ça, minak.
Alors, Nefesh, Ruach, après ?
C'est ?
Avant
le neshama. C'est un minak du Arizal. Il y a beaucoup de gens qui le font, je veux beaucoup le faire. Non, pas spécialement. Pas spécialement.
Maintenant que vous le savez,
c'est bien. Oui, j'ai plein à le faire.
Parce que moi, une question, mais on vient d'avoir. On dit que Shabbat, il y a une Neshama qui vient, c'est quoi ? C'est rien à voir.
Alors, pareil. Quand on dit que Shabbat est une Neshama supplémentaire, ça veut dire que Shabbat, on donne à la Neshama qui est dans le corps une force supplémentaire pour contrer le corps. Et c'est pour ça que Shabbat, la Gemara dit que Shabbat, on a plus de facilité à étudier. On a plus, pas seulement parce qu'on travaille pas. Ça n'a rien à voir. Shabbat, on a plus de facilité à étudier, parce que comme on donne plus de puissance à la Neshama, donc elle arrive à pousser un peu plus le corps. C'est la raison.
Moi, j'avais appris juste au contraire.
Ah bon ?
Que Shabbat, en fait, c'était une Neshama, entre guillemets, excuse-moi du terme, bahamite qu'on avait en plus pour avoir plus d'appétit.
C'est ça, Shabbat.
Je te jure.
On la bouffe.
Ouais. C'est pour ça que Shabbat, on mange plus.
Non, mais le vendredi.
Comment tu expliques que le vendredi soir, le Shabbat, on mange beaucoup, beaucoup plus que dans la semaine.
On le fait pour un Kadosh Baruch Hu.
On a l'appétit supérieur.
Non, oui. Il y a un appétit supérieur, ça, je remets pas ça en cause.
C'est donc une Neshama bahamite qu'on a en plus.
Non. C'est comme on a une double puissance, donc il y a un double moteur, donc il faut plus d'essence, c'est normal.
2 millions.
Ah, okay. C'est pas compatible.
Comment tu expliques que le vendredi soir, c'est très très fréquent de quand tu ça y est, t'arrives à la choule, inexorablement tu dors du mal, t'as du mal. Ce que tu reçois, ça fatigue. Ce que tu reçois, c'est crevant pour le reste du corps.
Il y a une transformation du corps, oui. Vous savez qu'on dit que, pour tous ceux qui s'endorment, ça leur arrive de s'endormir au cours de vendredi soir, je vous ai déjà dit que le Arizal, il avait tout le temps, dès qu'il rentrait Shabbat, pendant quelques minutes, il s'endormait. Après, il repartait donner un cours. Il expliquait que dans les sphirotes, même dans les sphirotes, dans les sphères célestes, il y a des sphirotes qui s'endorment à l'entrée de Shabbat, parce qu'il y a un transfert. Tu vois, on change des choses. Comme nous, on voit dans notre corps, il y a quelque chose qui change.
Mais normalement, il faut faire une sieste avant Shabbat.
Bon, ça c'est...
Avant Shabbat,
ouais. Donc c'est une adaptation, non, en fait.
Ok, dans les mots. Bon, Rabotai, on va essayer de rester. Il y a déjà beaucoup de détails, on va essayer de rester concentré.
Quand vendredi soir.
Vehi, Prinat, Rochma, Shibenefesh. Alors dans les mots.
Marcel, où on est, Marcel ? Je vais vous séparer, vous, la prochaine fois.
247.
C'est les deux du Mupecho, là.
Je sais pas ce que vous racontez, mais ça doit être intéressant. Alors.
Non, mais on parle du
coup. Bien sûr, je ne rentre pas en question. Alors.
247.
C'est là. Maintenant, on est là, tu vois.
Non, mais.
Vehi, Prinat, Chorma, Shibenefesh. Donc, c'est vrai que cette volonté de rejoindre Akadosh Baruch Hu, c'est une volonté qui est liée à la Neshama. Mais dans la Neshama même, c'est lié au niveau de la Neshama qui s'appelle Chorma. Le niveau de Chorma dans la Nefesh, rappelez-vous, c'est quoi Chorma ? Chorma, si on décompose, ça nous donnait Koach Ma. C'est quoi Koach Ma ? Koach Ma, ça veut dire la force du questionnement, la force de s'annuler. C'est-à-dire que dans la Neshama, il y a une force qui est là constamment en train de se remettre en question et en train de vouloir chercher.
C'est la quoi ?
Chercher. C'est ça. Comme la flamme, elle cherche, elle veut partir. Elle cherche, elle reste pas tranquille. Et ben ça, c'est la Neshama. En nous, dans la Neshama, il y a une fonction qui est là que pour chercher à partir. C'est sa fonction. C'est-à-dire que même s'il est bien installé, même s'il est dans le corps d'un tzaddik, même s'il a des milliards de chassidim, même s'il a tout ce que tu veux, même s'il sert, il y aura toujours une fonction dans la Neshama qui s'appelle Chorma, qui est là pour lui dire, on n'a rien à faire ici, il faut qu'on parte. C'est son rôle. Son rôle, c'est de lui dire, tu n'as rien à faire ici, il faut que tu partes. Il a comme un cheval de Troie à l'intérieur. La Neshama, c'est dans le bon sens du terme. C'est un cheval de Troie à l'intérieur qui lui dit, il faut partir, il pousse. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, Béhi.
Mais alors pourquoi on a cette Neshama dans le corps si elle doit partir, si elle veut tout le temps sortir?
Parce que sans la Neshama, ce serait une catastrophe.
C'est pas naturel.
Sans la Neshama, ce serait une catastrophe. Sans la Neshama, le corps serait tout le temps en bas. D'accord, on aurait fait que d'Averot.
Cette Neshama qui est dans le corps, c'est pas naturel. Puisque c'est quelque chose qui, c'est un corps étranger finalement qui est en moi. Donc, elle n'est pas lieu d'être.
Mais ça n'est pas,
je la dérange.
Monsieur Benita, c'est quoi l'homme? C'est qui, Monsieur Benita?
Comment ça?
C'est qui, Monsieur Benita?
Peu importe.
Non, attendez, répondez à ma question.
Fini d'en faire le tour.
Non.
C'est qui? Sérieusement, c'est qui?
C'est
quoi? C'est votre main?
Non, ben c'est tout un corps, quoi. Voilà. C'est un corps qui est composé d'une main, d'une tête, d'une.
Et si j'ai pas de main, Chassé Shalom? Je suis plus Mendy Assouline?
Eh ben si.
Alors donc c'est pas la main, Mendy Assouline, alors?
Mais comment ça?
C'est qui Mendy Assouline?
Non, mais c'est
tout un. Répondez à ma question. C'est qui Mendy Assouline?
C'est tout un ensemble de membres qui font que le qui la composent.
Et s'il manque des membres? S'il manque des membres?
Et combien même il manquerait un membre ou deux membres, l'homme il restera toujours homme. Donc c'est.
Pourquoi? Donc c'est quoi homme?
Pourquoi?
Ben la fonction.
Je vous réponds. Je vous réponds. L'homme. Vous expliquez, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est une association entre le gouf et la neshama. Ça, c'est la définition de Adam. C'est écrit Vaipar Be'apav Nishmat Raim. D'accord? Dieu a insufflé dans Adam. D'abord, Dieu a créé le corps de Adam. Après, il a insufflé en lui une neshama. Et après, il l'a appelé Adam. Ça veut dire que c'est quoi Adam? C'est un corps qui a été animé par une neshama. Vous comprenez? Donc, il n'y a personne qui dérange personne. C'est moi, quand je dis moi, c'est qui? Moi, c'est le corps et ma neshama.
Personne ne dérange personne, mais il n'en demeure pas moins que cette neshama qui est là, elle veut toujours partir comme la femme que vous dites, elle veut toujours monter. Alors elle fait quoi?
Mais le corps aussi veut toujours descendre.
Le corps ne se manifeste pas. Non, c'est la neshama qui se manifeste.
Qu'est-ce qu'il fait que ça?
Il a faim, il a sommeil.
Ah oui, d'accord.
Il veut faire des bêtises.
Il a des envies.
C'est des choses qu'il peut faire sur place, mais ça ne le dérange pas.
Bon, à bataille.
Parce qu'apparemment, là, cette neshama, elle est dérangée.
C'est tout le monde qui dérange tout le monde. La neshama, elle dérange le corps, et le corps dérange la neshama.
D'après ce que le texte dit, cette neshama, elle n'est pas à sa place. C'est un corps étranger qui
est là. Non, c'est pas qu'elle n'est pas à sa place. C'est qu'elle fait ressentir qu'elle ne veut pas rester là. C'est pas elle qui a décidé d'être là, ni le corps non plus. C'est Dieu qui a décidé.
D'accord, mais alors pourquoi me mettre quelque chose dont je n'ai pas besoin?
Mais comment vous voulez vivre sans ça? Comment vous voulez avancer dans la Torah quand vous n'avez qu'un corps qui vous tire vers le bas? Il faut que la neshama vous tire vers le haut. Le corps il vous tire vers le bas, la neshama vous tire vers le haut et vous arrivez à un juste milieu. C'est logique.
C'est un équilibre.
L'équilibre,
il y est chez les autres aussi, il n'y a pas que chez nous.
Vous avez raison, on a un équilibre différent. Un juif, il a une fonction spéciale, qui est une neshama, qui lui rappelle constamment, il lui dit, pense à Dieu. Un goy, il a pas ça. C'est sérieux. Un goy, il a pas ça. Un goy, il a pas une fonction, lui, qui lui rappelle constamment de penser à Dieu. Il peut passer toute sa vie sans penser à Dieu, il y a personne, il y a rien qui le dérange.
Un ecclésiastique, il pense quand même.
Parce qu'il veut penser à Dieu. Il a pas comme chez un juif, que chaque juif, il a une volonté, d'accord, et qu'il y a une fonction en lui qui est là constamment, qui bip, et qui lui dit, pense à Dieu. Ça, un goy n'a pas. C'est une fonction qu'on a en plus. Faut apprendre à l'apprécier. Et comme j'étais samedi soir à un Fabringen du Rav Shem Tov de Philadelphie, qui était là, il était de passage à Paris, il a dit comme ça. Il nous a dit que le rabbi, il répétait plein de très très beaux divrei Torah, mais une des choses qu'il a dit, c'est comme ça. Il dit, le rabbi disait souvent que tout le temps quand on dit dans les divrei Torah, on dit le srouk, la chance qu'on a d'être juif, etc. Mais le rabbi disait que chaque chance, chaque mérite est lié à une responsabilité. Ça veut dire que quand on dit que tu as une chance, c'est pas Stam que tu as été chanceux et que tu as eu une chance et que tu as gagné au loto. C'est que chaque chance est liée à une responsabilité. Donc ça veut dire que si nous les juifs, on a une fonction spéciale que d'autres n'ont pas, ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui est liée à ça aussi. C'est pas Stam, on dit bon, nous on a une fonction de plus et on est les meilleurs. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Ça a été lié à la radio il y a pas longtemps.
Que quoi? Srout et Achariut. Ça, j'ai trouvé très beau ce parallèle. Que chaque Srout a une Achariut. Si on a une chance, c'est une responsabilité. Je donne un exemple. Il a donné plein d'exemples. Regardez. Par exemple, en quoi je suis responsable de ce qui se passe dans les pays du tiers-monde? J'en ai rien à faire, moi, ce qui se passe dans les pays du tiers-monde.
Tu entends, Dan?
Oui.
Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, ce qui se passe dans les pays du tiers-monde? Moi, je vis bien ici, je suis là. C'est quoi la réponse? Comme j'ai la chance de bien vivre, chaque chance est liée à une responsabilité. Donc, je dois me préoccuper de ce qui se passe ailleurs. La même chose. Le rabbi disait aussi, par exemple, quelqu'un, il est religieux. Pourquoi tu veux qu'il aille s'occuper des gens qui ne sont pas religieux? Lui, il est religieux. Ben, il s'occupe pas religieux, c'est son problème. Moi, j'ai la chance d'être religieux. Lui, il a pas sa chance. Ben, tant mieux pour lui. T'en dis non. Une chance est liée à une responsabilité. Si moi, j'ai la chance d'être religieux, donc, j'ai la responsabilité de penser à ceux qui ne le sont pas encore. Toujours. Retenez ces deux mots en hébreu. Srout. D'accord? Nosé acharayut. Srout, ça veut dire une chance. Est lié à acharayut, à une responsabilité. Bon, ça c'est la parenthèse.
Alors, dans ce que tu dis, il y a un effet de contagion, alors, puisque la responsabilité amène à faire en sorte que tu dois développer, à travers la mission qui t'est confiée, telle et telle tâche. Donc, c'est une charge, un poids que tu dois assumer.
Excuse-moi.
Évidemment, oui.
Je peux te répondre. Dans Ayom Yom, c'est marqué que quelqu'un qui sait enfiler des perles, s'il fait boulanger, certes, il fait des mitzvot parce qu'il donne à manger cachère à des juifs, etc. Mais ça lui est compté comme une faute parce qu'il avait une capacité qui était bien plus importante que celle de faire du pain, qui était d'enfiler des perles, qui n'était pas donnée à tout le monde. Et donc là, il a gâché, en fait, son potentiel. C'est-à-dire que chaque personne, elle a un potentiel qui lui est propre. Avec,
il a pas fait sa mission, en fait.
Oui, voilà.
Ok, Rabotai, on va avancer un petit peu.
J'ai réussi à me faire.
Allez, mais Rabotai, si ça vous dérange pas, on va limiter un peu les questions parce qu'il faut qu'on avance dans la suite là. On perd un peu le fil. Donc je reprends le fil pour ceux qui ont perdu le fil depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on explique dans ce pérec? Rapidement. On a expliqué depuis le début de ce pérec. Notre but. Je reprends le fil.
D'accord.
Hein? Hein?
Tu m'as envoyé dans les roses, mais c'est
pas. Non, vas-y. Dis-moi, vas-y, fais ça.
Il a fini les gibles. Vas-y, laissez parler.
Je voulais juste attendre une petite réflexion quand on dit le peuple élu.
Oui.
Dans l'esprit des gens, c'est mal interprété, c'est péjoratif, tout ce qu'on veut. Mais quand on dit le peuple élu, ça veut dire qu'il a une mission spéciale pour ce monde.
Pour éclairer, oui.
C'est tout. Ça n'est pas, il n'est pas plus que les autres peuples. Il est
porteur de la flamme.
Il est une mission différente.
Porteur de la flamme.
C'est pas envie dans les roses, hein,
non,
finalement, tu as dit ce que tu voulais dire. Voilà. Alors, je reprends. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début du pérec? Comme ça, on a expliqué plusieurs notions, donc je vais essayer de retracer le fil. Notre but dans ce pérec-là, c'est d'expliquer qu'est-ce que la Neshama. Ça, c'est notre but. Alors, on a dit, quand on pose des questions en général pour toute âme vivante, on a dit qu'une âme vivante, c'est un souffle de vie. Ça, c'est la réponse classique. Mais, quand il s'agit d'un juif, il y a un pasouk du roi Salomon, Shlomo Ameler, dans Michelet, qui dit, Ner Hashem, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, la flamme, donc la bougie de Dieu, est comparée à la Neshama d'un homme. Adam, on a dit, c'est qui Adam? C'est Israël. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que la Neshama est comparée à une bougie. Quel rapport entre la Neshama et la bougie? On a dit de la même manière que la flamme, elle est constamment en train de bouger. Pourquoi elle bouge? Parce qu'elle veut revenir à sa source. Même si elle sait qu'en revenant à sa source, elle sera plus utile, elle servira plus à rien. Et quand même, elle veut retourner à sa source, parce qu'elle veut retourner à sa source. Et que ça, c'est une nature. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est une nature? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inexplicable et qui est incontrôlable. De la même manière, quand on parle de la Neshama, quand on parle de l'âme divine, c'est la même chose. La Neshama qui est dans le corps, c'est quoi sa fonction principale? C'est quoi l'âme divine? C'est quoi sa fonction principale? C'est pas de faire des mitzvot. D'accord? C'est pas de faire des choses, c'est rien du tout. Elle a une fonction principale, c'est quoi? C'est d'utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour rappeler à un juif sur terre qu'il y a un Dieu. Pour lui dire, rappelle-toi, il y a un Dieu. Et pour aller, le corps l'amène du bas vers le haut, enfin du haut vers le bas, et lui, elle, la Neshama, elle essaie de faire exactement le contraire. Maintenant, la Neshama, elle a une volonté constante de monter vers le haut, parce qu'il y a une puissance énorme qu'elle exerce. La preuve, c'est quoi? C'est que le jour où tu enlèves le corps, avec cette puissance, elle va tout en haut. Tu dis, mais pourquoi tu vas aller tout en haut? Tu ne serviras plus à rien. Ça la dérange pas. Dieu l'a créée avec une telle volonté que même si elle sait qu'elle ne servira plus à rien, elle veut quitter le corps. Et c'est très important que dans un corps qui veut tout le temps aller vers le bas, il y a une force contraire qui lui dit, moi je veux aller vers le haut. Et même si ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est très important qu'il y ait une force très puissante qui fasse le poids, parce que de la même manière, et ça je voudrais rajouter aussi un détail que je n'ai pas dit tout à l'heure, le corps, il fait exactement la même démarche de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Le corps, quand il me pousse à fauter, quand je réfléchis un peu, je dis, mais pourquoi tu fautes? Pourquoi tu vas fauter? Tu vois pas que tu fais du mal? Mais le corps, il n'en a rien à faire. Il dit, moi, je vais fauter, je vais vers le bas, quitte à me casser la figure, j'en ai rien à faire. Et il fait exactement la même démarche que l'âme divine, mais dans le contraire. L'âme divine, elle dit, moi, je vais aller chez Dieu coûte que coûte, même si je disparais. L'âme animale, elle dit, moi, je vais faire ma avéra coûte que coûte, même si à cause de ça, je vais subir. C'est ça quand on fait une avéra. Quand on fait une avéra, je dis, moi, je vais faire ma avéra, je n'ai rien à faire de personne.
Alors, comment c'est pour pas
donc c'est ça. Ça veut dire que dans les deux, et l'âme divine et l'âme animale, ça va, c'est une force très puissante qui est exercée, que si tu laissais cette force toute seule pour répondre à votre question, tout aurait été cassé. Mais quand tu as deux forces qui sont très puissantes, qui sont l'une contre l'autre, donc, automatiquement, ça crée une sorte d'équilibre, c'est l'équilibre dans lequel on vit tous les jours. Donc, il faut pas s'étonner si des fois on sent que l'âme divine, elle est très puissante en nous. Si des fois, d'un autre côté, il y a certains jours où on sent que l'âme animale est très très forte en nous, on se dit, mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Qui je suis? C'est quoi cette histoire là? Comment hier j'ai pu avoir une âme divine qui était à fond dedans et aujourd'hui je suis complètement à côté de la plaque? Mais complètement, quel rapport maintenant? Maintenant on comprend. C'est qu'en vérité, on a constamment en nous deux forces complètement contradictoires. Alors, le but, c'est d'avoir un certain équilibre, mais malheureusement, ça marche pas toujours. Alors, des fois, ça marche dans le sens que l'âme divine, elle prend le dessus, et bon, elle part et elle décolle, et c'est là un jour, je sens que j'avance dans la Torah, et un autre jour, ça peut être le contraire. Parce que c'est le système de l'équilibre. Et c'est constant, ça veut dire que même si j'ai passé 10 ans à faire la Torah et les mitzvot, et bien à un moment, mon Etzara peut m'envoyer un gros coup, et je retombe. Parce que c'est le système d'équilibre que des fois je l'ai, des fois je ne l'ai pas.
Comment tu fais pour gérer la culpabilité dans ce cas-là? Parce que tu vis en constant combat, en contradiction avec toi-même, en conflit avec toi-même.
Mais c'est qui moi-même? Moi-même, c'est les deux.
C'est bien ce que je dis. Donc intrinsèquement, tu as le gouv qui te pousse à la matérialité, tu as la nefesh haelokit qui te pousse au contraire.
Oui.
Et donc, il y a, comme tu l'avais dit précédemment, il y a des batailles. Et en fait, c'est la nefesh elokit, c'est le petit rabbin malin rusé qui, de temps en temps, arrive à mettre un gros taureau par terre.
Oui.
D'accord. Un grand mêlère par terre.
Oui.
Mais finalement, à partir du moment où plus tu étudies, plus tu apprends les halakhot, plus tu commences à te rendre compte de la gravité de tes erreurs et de tes avonotes, de tes péchés, et comment tu fais pour gérer la culpabilité? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient complètement insupportable. Donc tu peux avoir des pensées suicidaires, chas v'shalom,
mais c'est
de dire, j'en ai ras-le-bol, j'arrive pas à surmonter, de toute façon, je décollerai jamais, on est là, machin.
Mais c'est Dieu qui m'a créé avec ce corps.
Il y a les pizzas, les crevettes, c'est ça, le fromage.
Regardez le piège, c'est pour ça que j'ai répondu à la question de M. Benita. Le piège dans lequel on se tombe tous, et c'est très important, la question est très importante. D'accord, non, mais je vais formuler la question d'avenir un peu différemment. En fait, d'où vient cette question-là? Cette question vient d'une erreur qu'on fait tous. C'est que pour nous, quand je dis moi, je me dis que moi c'est mon corps. Et que j'ai un corps extérieur qui s'appelle Aneshama, qui essaye, bon le pauvre il essaye de gagner ce qu'il peut, mais ça marche pas. Alors je dis bon bah écoute, ça marche pas, il est dégoûté. C'est faux.
Mais pourtant,
moi, attends deux secondes, moi c'est pas mon corps. Moi c'est la jonction entre mon corps et Aneshama. Et donc de la même manière que Aneshama m'a été imposé pour me tirer vers le haut, de la même manière mon corps m'a été imposé pour me tirer vers le bas.
Ah non.
Bien sûr.
Ah non, on a choisi l'Aneshama, elle a choisi le corps.
Non. Mais moi j'ai rien fait moi. Moi je suis né sur Terre. D'emblée, j'avais un corps et une âme. J'avais un qui me tire vers le haut, l'autre qui me tire vers le bas. J'ai pas choisi, j'ai rien fait moi pour ça.
Ça veut dire que non. Je veux aller dans cette famille, je veux prendre ce corps-là.
Mais ça change pas, j'ai pas choisi ce corps, pas choisi d'aller dans ce corps, de vouloir descendre comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai pas décidé d'être dans un corps et que ça me bride. Ça veut dire que pour moi, il y a pas de culpabilité.
Tu vois, t'aurais pu naître marocain.
Non, pas jusque-là.
Non, il y a jusque-là. Pour moi, je veux te dire, il y a culpabilité.
Mais t'as pas choisi.
Il y a culpabilité. Non, je veux te dire à mon avis. Moi, en tout cas chez moi. Il y a culpabilité. Dans le sens où quand c'est un cas dans lequel t'avais une sorte d'équilibre. Et que volontairement t'as cassé cet équilibre. C'est-à-dire, tu gérais la situation. Tu gérais, ça marchait. T'arrivais à, voilà. Et à un moment, volontairement, tu te laisses aller. Là, tu t'en veux, là, tu dis, c'est pas qu'on m'a imposé un corps, c'est moi qui me suis laissé aller, c'est moi avec mon libre arbitre qui a décidé de pousser le corps vers le bas. Mais si c'est pas le cas, une personne qui fait teshuva, il a aucune culpabilité à avoir.
Alors,
il a un corps qui lui a été imposé, qu'est-ce que tu veux?
C'est cette âme, divine qui est la source de la teshuva pour la personne.
Évidemment, oui.
D'accord? Bon, alors maintenant, est-ce qu'elle a suffisamment de force pour contrecarrer et mettre en diapason la Neshama avec
oui,
le gouffre.
Sans problème, oui.
On peut le faire,
sans
ça
sans problème.
D'accord.
Sans aussi fort.
D'accord.
T'as un grand corps, c'est une grande Neshama et vice-versa.
D'accord.
Okay. Oui. Une fois que tu, par exemple, s'il y a une semaine où t'es plus. Où t'as laissé le corps gagner un petit peu de
pansement
à la Torah, etc. Mm-hmm. C'est pas à chaque moment où t'as ce vrai choix de dire voilà, je peux aller vers la Torah ou pas.
C'est
la
vrai.
Torah. Une fois que t'as commencé à descendre. Il y a un engrenage qui fait que c'est plus dur.
Mitzvah, Keneged Mitzvah et son contraire.
T'as raison.
Ça veut dire que
je vais essayer.
Attends. C'est comme une chute. C'est comme une chute. Quand il y a un équilibre. D'accord. Pardon. Pardon. J'ai pas compris. Hein?
Elle est en panne en voiture.
Oui. Ah non, j'ai pas non.
Moi j'ai. Panivelle. C'est quoi? C'est de la batterie?
Non, c'est pour le
pneu.
Un cric?
Ouais.
Oui, j'ai.
Je sais pas si j'ai ça, oui.
Il a à venir, il arrive.
Il a tout à venir.
T'as voulu débarrasser de la
situ là, Mandy.
Hein?
Je sais pas, j'ai mis pas envie d'avoir
le cric.
Tu sais où il est?
Où il est?
Mais mets ta veste, mets ta veste.
Tu as jamais changé le pneu?
Parce que moi, la ah non, moi j'ai.
Quand tu dis que c'est une âme qui est chez Adam, non, chez
oui.
Pour Dieu connaître Dieu.
Oui.
C'est ça la discussion.
Alors, Rabotin, finis avec ça, finis avec les questions pour aujourd'hui.
Pardon.
Donc, c'est quoi cet anniversaire raté, là?
Ah ouais, pas bien.
Rabotin, j'entends pas les questions, là. Pourquoi? Parce que l'égoïme, c'est autre chose. L'égoïme, ils ont un corps et ils ont une âme vitale. C'est-à-dire qu'ils leur assurent les fonctions de base. Et après, c'est eux qui décident ce qu'ils font. Ils n'ont pas en eux un cheval de Troie qui leur appelle constamment pour communiquer avec eux. Ça, ils ne l'ont pas.
Même chez les religieux qui
l'ont pas.
Démarche que nous, en travaillant sur eux.
Exactement, en se travaillant. Mais la particularité qui a changé, c'est que même s'ils ne se travaillent pas, il a cet appel à l'intérieur. Ça, c'est unique. Ok. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Venez rattacher la semaine prochaine. On va développer, on va continuer à développer.
Non, moi j'avais demandé.
T'as vu, on t'a pas entendu aujourd'hui, hein.
Non, parce qu'il était concentré.
Il a pas eu de goût à boire.
Sa Nechama, il est parti.
Non.
Alors, ce qu'on va développer la semaine prochaine, c'est la notion de Chochma de l'âme divine. Parce que là, on a parlé de Chochma. Et ce qu'on va développer la semaine prochaine, Venez rattacher M, c'est qu'est-ce qui explique qu'à certains moments, la Nechama se réveille. Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'il y a des choses qui font que la Neshama, il y a un déclic qui fait que la Neshama, elle se réveille? Alors, ça peut être Kippour, ça peut être, il entend une guerre quelque part. Qu'est-ce qui fait que la Neshama décolle? Ça veut dire en d'autres termes. Maintenant qu'on a compris qu'il y a un système d'équilibre, et que des fois le corps est tellement fort qu'il écrase la Neshama, qui certes veut toujours monter, mais qu'il l'écrase. Qu'est-ce qui fait que cette Neshama écrasée, tout d'un coup, un beau jour, elle se réveille? Pourquoi elle s'est réveillée? Comment ça s'est passé?
Un coup de pouce en haut.
Tu te dis que c'est un coup de pouce d'en haut. C'est une bonne réponse. Ça peut arriver. Ouais. Mais très souvent, c'est lié à autre chose. Parce qu'on verra la semaine prochaine. Très souvent, c'est lié à des situations qu'on passe. D'accord? Des situations par lesquelles on passe.
Quand on passe dans une Brit Mila, ben, ça monte, voilà. Quand on fait des...
C'est pas forcément lié, bon, je vous donne un preview. C'est pas forcément lié à une situation, à un paramètre externe. Il y a des paramètres internes qui font qu'à certains moments, la Neshama se réveille. Si vous voulez, c'est comme, t'as un moteur qui est là, qui fonctionne à un certain régime, et à certains moments, il y a des déclencheurs qui font qu'à un moment, il fait un sur-régime. Et c'est comme ça. Et on va les expliquer la semaine prochaine. Et c'est ce sur-régime qui fait que là, tu sens que, oui. Là, tu sens que la Neshama, elle décolle. Maintenant, ça, il faut expliquer comment ça se passe.
C'est le moteur lui-même qui s'embarque.
Mais ça, on le voit, ça. On voit même des gens très loin, et d'un moment, ils se réveillent. Il faut comprendre quel est le déclencheur. C'est quoi le déclencheur? C'est-à-dire qu'à un moment, il fait un sur-régime. Et c'est pas forcément avec un paramètre extérieur, quelqu'un qui a pensé à lui, quelqu'un qui l'a parlé. C'est, tu sens qu'il fait un sur-régime. Pourquoi? Parce que le moteur a été conçu comme ça.
Il faut un autre truc parce que les écrous sont plus cycléniens.
Sous l'Opel.
Ils sont plus petits. C'est des écrous plus petits.